J'aimerais parler sur le feu de la fournaise, dans Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, et les juges et les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on ordonne, qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Amen. On va arrêter là la lecture pour l'instant. On poursuivra dans ce chapitre 3 quelques autres éléments. Mais d'abord, on passe tous par des moments où on a l'impression que les choses tournent mal. Et on le voit ici, la situation était très difficile pour ces trois jeunes juifs qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient été arrachés à leur pays et déportés à Juda, c'est-à-dire plus de 1000 kilomètres à l'extérieur de leur pays. Et ils ont été arrachés à leur famille, arrachés à leur temple, mais ils avaient Dieu dans leur cœur. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Ils avaient la foi. Mais ils ont été obligés d'apprendre la langue de Babylone, de connaître la littérature des Chaldéens, d'apprendre aussi leur divinité, toutes ces choses. Ils ont été donc arrachés à leur culture. On va dire que la situation n'était pas bonne pour eux, mais elle est devenue encore pire dans la suite, puisque Nebuchadnezzar a décidé de bâtir une statue haute de 30 mètres et large de 6 mètres. Et quiconque ne se prosternerait pas devant cette statue, au moment où la musique allait annoncer le signal, il fallait que tous les peuples, toutes les nations, y compris donc Shadrach, Meshach et Abednego, se prosternent devant la statue, sinon ils seraient jetés dans la fournaise ardente. Donc on voit que la situation est difficile, mais elle peut devenir encore plus difficile. Et c'est vrai pour nous. On a l'impression que la situation est déjà difficile, mais quelquefois on est fidèle au Seigneur et la situation devient encore plus difficile. C'est un peu perturbant. On avait aussi changé leur nom. Le vrai nom de Shadrach, c'était Anania. Anania qui est l'éternel et bienveillant. Il avait le nom de Dieu sur sa vie. Mais on l'a changé en Shadrach. Shadrach, c'est le commandement d'Aku et Aku, c'est un dieu babylonien. Vous voyez, on avait changé son nom de l'Éternel sur sa vie, l'Éternel est bienveillant, en commandement d'Aku, le faux dieu. Donc ça aussi, il fallait porter ses noms. Michaël, le vrai nom de Meshach, c'est qui est comme Dieu, et on l'a baptisé Meshach. Qui est-ce que Aku? Aku, toujours ce dieu des Babyloniens. Et puis Azaria. Azaria signifie l'Éternel est mon soutien, et on l'a baptisé Abednego, serviteur de Nego, encore un dieu babylonien. Donc voilà la situation qui n'est pas bonne. On leur change leur identité. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur nom? C'était comme pour leur faire un lavage de cerveau, pour leur dire votre dieu, votre pays, c'est fini. Maintenant, vous allez adorer nos dieux, vous allez servir nos idoles. Mais même s'ils ont, ils les ont baptisés de noms différents, ils leur ont donné des noms de divinités, En réalité, leur cœur appartenait toujours à Dieu parce qu'ils avaient une foi vivante. Et c'est cette foi-là que nous devons entretenir parce que nous avons aussi une nouvelle identité. Peu importe ce que les gens disent de vous, qu'ils vous cataloguent comme ceci, qu'ils vous donnent tel ou tel nom, vous avez une identité qui est nouvelle, qui est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est mon identité en Christ. Et ça, ça reste à l'intérieur, peu importe ce que les gens disent. Alors, j'aimerais avancer dans le texte. On a vu que la difficulté donc, s'est accrue, que la situation était mauvaise, elle devient pire. Et au verset 7, on a maintenant la pression, c'est le premier point, la pression du conformisme. Le verset 7 dit, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes, de toutes les langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Voilà la pression, c'est la pression de la masse, la pression du monde, la pression de la foule. Le texte dit, c'est tous les peuples, c'est toutes les nations, c'est tout le monde. Tout le monde obéit à l'ordre du roi. Et en général, la pression, ça nous pousse à faire comme les autres. Donc, si on ne veut pas avoir de problème, on va faire comme les autres, comme ça, on ne nous demandera pas de compte. Et c'est toujours plus facile de faire comme tout le monde et de cacher ses convictions. Il y en a qui ont peur d'afficher leurs convictions. Ça m'est arrivé lorsque je travaillais dans une entreprise de publicité, de mise en page. Donc moi, j'étais chrétien. J'avais déjà reçu un appel sur ma vie pour être pasteur. Alors je parlais du Seigneur assez facilement. Donc tout le monde savait que j'étais chrétien. Mais dans l'entreprise, il y avait une personne qui était chrétienne, que j'ai découvert qu'elle était chrétienne. Sauf qu'elle m'a dit, je suis chrétienne, mais personne ne le sait dans l'entreprise. Personne ne le sait dans l'entreprise. Elle avait honte de témoigner de sa foi. Eh bien, nous ne devons pas avoir honte de témoigner de qui nous sommes enfants de Dieu. Et c'est Paul qui dit, moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. Quand vous êtes en Christ, vous appartenez à Jésus, vous n'avez pas à avoir honte. Vous savez que les gens, ils n'ont pas honte aujourd'hui, mais pour les choses du monde. Par exemple, ils n'ont pas honte de dire qu'ils appartiennent ou qu'ils soutiennent telle équipe de rugby, telle équipe de football, ou qu'ils soutiennent tel ou tel parti politique, ou qu'ils font telle ou telle chose le week-end. Ils n'ont pas honte de leurs convictions. Et nous, chrétiens, alors que nous avons la vérité, nous avons la parole de Dieu, nous nous cacherions, nous aurions honte? Non. Alors, nous ne devons pas rester dans le secret, même si la pression est sur nous, même si le monde, comme un flot, ils vont se prosterner devant des idoles, ils vont suivre des faux dieux. Eh bien, nous sommes chrétiens, et nous serons éprouvés dans notre témoignage et nous devons parler de Jésus en toute occasion, favorable ou non. On a des exemples comme Pierre qui a subi une forte pression alors qu'on lui avait interdit de parler du nom de Jésus. Et il aurait pu se taire et de dire « je me soumets aux autorités ». Et les apôtres avaient rempli Jérusalem de l'enseignement du Seigneur, mais lorsqu'il est convoqué devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux juif, et qu'on lui dit « maintenant, tu arrêtes de parler au nom de Jésus », eh bien, Pierre dit « il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc, il prend position, il risque aussi, il risque d'avoir des problèmes, mais il ne suit pas le conformisme, il ne suit pas le monde et sa pensée, ou la pensée religieuse qui n'est pas celle de Dieu, il veut plaire à Dieu. Et vous ne pouvez pas obéir à Dieu et aux hommes qui vous disent le contraire de la parole de Dieu. À un moment donné, il faut mieux obéir à Dieu. Pareil, Paul, dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous demande, nous chrétiens, de prendre des positions dans le monde. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça, c'est la pression du monde qui veut nous modeler selon sa pensée, selon son désir. Ne vous conformez pas, ne cédez pas à cette pression-là. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, pardon, agréable et parfait. Autrement dit, si nous cédons au conformisme, nous cédons à la pression du monde, nous nous conformons au siècle présent, alors nous ne pourrons pas être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est soit on marche avec Dieu, soit c'est le monde qui domine dans notre vie. Mais si, ce n'est pas possible d'avoir les deux. Donc, à un moment donné, Paul dit, prenez plutôt position, mais ne vous conformez pas, ne faites pas comme le monde demande, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible du Semeur traduit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Pourquoi ? Parce que le monde a ses principes, il a ses valeurs, il a ses stars, il a ses dieux, il a même son prince. On l'appelle bien le prince de ce monde, Satan, c'est un prince. Mais nous, nous avons nos principes, nous avons nos valeurs et nous avons notre prince. C'est Pierre qui appelle Jésus le prince de la vie. Il est notre prince, il est notre Seigneur et il est notre Dieu. Donc on est vraiment dans des valeurs opposées. Donc vous voyez ce texte, le verset 7 nous montre qu'à un moment donné, dans le conformisme, il faudra prendre position et ne pas se conformer au monde, mais choisir de servir Dieu. Un peu plus loin, un deuxième point, c'est au verset 12. Il y a toujours des ennemis qui sont là dans l'ombre. Verset 12, il y avait des gens qui ont dénoncé, c'était des collègues en fait, des collègues de travail, on pourrait dire, des collègues qui connaissaient bien Shadrach, Meshach et Abednego, et qui les ont dénoncés au roi. Verset 12, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Voilà ici, donc, ce sont des gens qui travaillent avec Shadrach, Meshach et Abednego et qui ont fait un plan pour leur nuire. Et c'est ainsi que, même si vous êtes chrétien, il y a toujours des gens qui voudront vous nuire, vous faire du mal, vous évincer. Mais, même s'ils ont préparé un plan, regardez Proverbe 26, 27. « Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. » Donc Dieu, il est au contrôle. Et il ne va pas permettre que ces gens méchants qui ont formé ce plan pour nuire à Shadrach, Meshach et Abednego arrivent à leur fin. Donc ne craignez pas ces agissements. Nous, nous nous confions en Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Roi. Donc nous n'avons pas de crainte à avoir. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alors, ne craignez pas leurs agissements parce que si quelqu'un vous touche, c'est comme s'il touche à l'œil de Dieu. Dans Zacharie 2:8, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Il s'agit de l'œil de Dieu. Donc, on ne peut pas toucher un enfant de Dieu comme ça. Dieu est au contrôle et Dieu ne laissera pas le mal impuni. Alors c'est pourquoi Jésus nous enseigne, quand on vous fait du mal, bien bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et ça c'est à l'inverse de nos sentiments les premiers. On a déjà dans l'Ancien Testament un exemple avec David qui avait dans son cœur les sentiments de Dieu. Et lorsque son fils Absalom lui a fait du mal, parce que son fils a voulu le tuer, et David, dans son cœur, il ressentait de l'amour pour son fils et il avait dit à Joab, le chef des armées, mais doucement avec mon fils Absalom, ne lui faites pas de mal, ne le tuez pas. Et Joab en a fait autrement, il a malheureusement tué Absalom. Mais David exprimait, malgré le mal que lui avait fait son propre fils, il exprimait l'amour de Dieu dans son cœur qui voulait que son fils soit pardonné, qu'il soit sauvé. Donc c'est ce que Dieu veut mettre dans notre cœur, cet amour pour les autres. Un troisième point dans ce chapitre, c'est que maintenant, Dieu peut tout faire, alors que la situation est vraiment mal partie pour les trois amis. Ils sont convoqués devant le roi, alors le roi leur laisse une dernière chance. Peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu qu'il y avait eu la musique, peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait se prosterner, alors il leur dit maintenant, on va relancer la musique. Et il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, bah, vous allez vous prosterner cette fois-ci, pour de bon, vous allez vous prosterner, et puis l'affaire sera réglée. Et en plus, il leur dit, mais quel Dieu pourrait vous délivrer de ma main? Alors voici la réponse dans Daniel 3, 16. La réponse des trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevé. Alors, l'exemple là que nous voyons, c'est qu'ils expriment leur foi en Dieu qui peut tout faire à un moment donné où ça va très mal. Il n'y a pas d'issue. On leur dit maintenant, vous obéissez ou sinon c'est la fournaise. Eh bien, ils préfèrent quand même mettre leur foi en Dieu. Vous voyez que la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous permet de croire alors qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est un exemple pour nous de persévérance. Quand on vous dit tout est fini, on vous dit il n'y a plus d'espoir, eh bien, la foi va vous pousser à croire quand même que Dieu peut le faire. C'est comme cette foi qu'avait Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut. Donc, c'est une foi qui va au-delà de... Nous, on aime bien les petits signes encourageants, on aime bien une petite amélioration qui va nous donner de l'espoir. Eh bien, on n'a même pas ces choses-là, on n'a même pas d'encouragement, on n'a même pas de signe annonciateur d'une bénédiction quelconque, mais c'est cette foi qui, à partir de rien, s'appuie sur Dieu et croit que Dieu peut le faire quand même, même si tout est contre nous. Et verset 18, voyez la sagesse qu'ils ont, parce que la foi n'est pas une folie. Ils disent au verset 18, « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. » Sinon, ça veut dire « Et même s'il ne le fait pas. » Parce qu'ils ont dit « Dieu peut nous délivrer de la fournaise. » Mais ils disent « Même s'il ne le fait pas, de toute façon, dans tous les cas, nous ne servirons pas tes dieux. » Parce qu'ils savent très bien que même s'il meurt, c'est ça aussi l'espérance que nous avons, nous, croyants. Si nous mourons, nous savons que notre âme, elle se retrouvera dans la présence de Dieu. Et ils ont cette assurance que même si on les jette dans la fournaise ardente, si Dieu les laisse aller là, de toute façon, on sera toujours délivré de la main de Nebuchadnezzar parce que notre âme, elle est déjà dans les mains de Dieu et c'est lui qui nous recueillera. Donc, ils expriment vraiment leur foi. Et Paul parle des persécutions des chrétiens. Alors, les premiers chrétiens ont été beaucoup persécutés par les Juifs, par les Romains, et on les persécutait à cause de leur foi, parce qu'ils ne se soumettaient pas à l'empereur. Ils ne voulaient pas prier l'empereur. L'empereur était un dieu à l'époque. Et donc, Paul parle des persécutions, il parle des chrétiens qui connaissent la faim, la nudité, les périls, parfois mis à mort à cause de leur foi, et au verset 37 de Romains 8, mais dans toutes ces choses, quelles choses ? Dans toutes ces choses, la faim, la nudité, les périls, mise à mort, etc. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Voyez le contraste. Nous, chrétiens, si nous avons Jésus dans notre cœur, dans toutes ces choses, quand bien même ce serait la mort, il dit, même dans la mort, le chrétien, il est plus que vainqueur parce que son âme, elle appartient à Dieu. Et quand il meurt, il va au paradis, il va auprès du Seigneur. Comment c'est possible ? C'est une foi qui nous est accordée, qui nous est renouvelée et qu'on entretient dans la présence de Dieu par la parole, par la prière. Et ça, c'est une foi qui nous relie à Dieu. Et si cette foi faiblit, eh bien nous sommes faibles spirituellement. Nous avons besoin de nous fortifier dans la foi, dans ces promesses que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Paul dit, serait-ce la mort, serait-ce la tribulation ? Non, rien ne peut nous séparer. Il dit même ni les anges, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et lorsque Étienne, le premier martyr, a été lapidé à cause de sa foi, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu et il a vu Jésus l'accueillir au ciel. Et c'est pourquoi il a dit à Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Et donc il a été directement au paradis après sa mort. Donc c'est trois amis ont la même conviction que de toute façon ils ne serviront pas cette idole, ils ne se prosterneront pas, mais quoi qu'il arrive, si le pire devait arriver, ils ont la confiance qu'ils auront la vie auprès de Dieu. Le quatrième point, c'est maintenant le quatrième homme qui arrive dans la fournaise, puisque la Bible dit que le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que de coutume. Et les trois Hébreux sont éprouvés dans leur foi, puisque là, maintenant, on va les jeter dans la fournaise. Alors, là encore, c'est perturbant, parce qu'on pourrait se dire, ils ont la foi, ils aiment Dieu, Mais voyez, en récompense, on fait chauffer la fournaise encore plus. Et c'est là encore où la situation se dégrade encore plus. Plus ils sont fidèles à Dieu, plus la situation devient pénible. Et maintenant, ils vont être jetés dans la fournaise, donc cette fois plus fort, sauf que les gardes qui les ont pris pour la jeter, les trois hommes dans la fournaise, c'est tellement chaud que ces gardes-là, ils meurent à cause de la flamme, mais ils ont le temps de les jeter juste dans la fournaise, sauf que les trois ne meurent pas. Là, c'était vraiment un miracle. Le roi voit maintenant quatre hommes dans la fournaise. Alors, il demande à ses conseillers, mais est-ce qu'on n'a pas jeté trois hommes ? Si. Daniel 3, 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point fait de mal. Et la figure du quatrième est semblable à celle d'un fils des dieux. » Premier miracle, Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise et le feu ne les atteint pas. Donc, Dieu les garde dans la fournaise. Deuxième miracle, un quatrième personnage apparaît au milieu d'eux. Qui est-il ? Ici, il est appelé un fils des dieux. Plus tard, il parle d'un ange. C'est Nabuchodonosor qui parle. Dieu a envoyé son ange. Et beaucoup de commentateurs voient ici son ange. En fait, l'ange de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et pour beaucoup de commentateurs, cet ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, avant sa naissance, Christ s'est manifesté plusieurs fois par l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, ça nous montre que Jésus nous rejoint dans la fournaise. 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Jésus vient à notre secours, il vient avec nous dans la fournaise, il nous soutient, c'est le quatrième personnage. Alors c'est une révélation parce qu'il s'est rendu visible, mais Jésus, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais il est là, même quand nous sommes dans la fournaise ardente. La protection de Dieu est parfaite, la Bible dit que les liens ont été brûlés, oui, ils étaient donc attachés avec des cordes. Ces liens ont été brûlés, donc les trois hommes ont été libres, ils pouvaient marcher. Ça nous parle de la liberté que nous avons en Christ. Le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux, ça nous parle de la protection de Dieu. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés, ça montre aussi la fidélité de Dieu. Luc 12, 7, « Même vos cheveux sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les passereaux. » Donc Dieu veille sur ses enfants, sur sa création. En conclusion, le feu de la fournaise, tôt ou tard, il est sur notre route. Alors, ce ne sera pas forcément une fournaise physique, mais en tout cas, Pierre reprend cette expression dans 1 Pierre 4, 12. Parle de la fournaise. Mes bien-aimés, il s'adresse à des chrétiens. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. On retrouve cette fournaise qui n'est pas physique, mais qui est quand même les épreuves que nous connaissons dans le monde. Cette fournaise de l'épreuve, elle est quasi normale pour les chrétiens. Elle fait partie de la vie chrétienne. Et il dit, ce ne doit pas être étrange parce que le monde rejette votre foi, le monde vous rejette. Donc, ne soyez pas étonnés d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et il nous montre un autre chemin. C'est le chemin de ces trois Hébreux qui ont été dans la confiance et dans la foi, à un moment donné tragique, difficile, il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et il invite les chrétiens à regarder vers Jésus, ses souffrances, mais aussi son retour. Et ça nous parle de la foi, de l'attente du retour du Seigneur dans la gloire. Alors, on ne peut pas modifier les circonstances. Les épreuves, elles sont là, il y a des fournaises qui sont là. Mais on peut changer notre attitude, comme dit le verset 13. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et cette joie, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. C'est la joie de Dieu en nous. Et elle nous est donnée par Dieu. Aussi, peut-être vous pensez que vous n'avez pas la force. Et comment allons-nous faire si nous sommes persécutés? Des fois, on me pose la question, mais comment ferons-nous? Puis en fait, c'est Dieu qui nous donne la force au moment de l'épreuve. Donc on ne peut pas savoir comment on va faire ou comment on va réagir, mais on sait que Dieu est fidèle et qu'il nous donnera les moyens de traverser l'épreuve en comptant sur sa grâce. Nous, notre part, c'est d'obéir à la parole, de lui faire confiance, et Dieu, lui, il s'occupe du reste. Donc nous faisons notre part, tenons-nous dans la parole, prions le Seigneur, obéissons. Ils ont pris le risque d'obéir, mais ils ont eu raison, ils ont fait confiance à Dieu. Il nous montre le chemin, prions quelques instants, tenons-nous devant le Seigneur. Merci encore pour ta parole, pour cet exemple de persévérance dans la foi, dans ces moments où le conformisme est omniprésent, où Shadrach, Meshach et Abednego étaient poussés à se conformer au monde présent, à faire comme les autres pour ne pas avoir de problème. Et merci Seigneur pour leur exemple de résistance. Ils ne se sont pas conformés au siècle présent. Ils ont cherché à te plaire comme Pierre nous montre la voie. Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seigneur, nous voulons repasser ces paroles dans nos cœurs pour être prêts quand les tentations sont là, quand la pression du monde est là, quand nous sommes poussés à nous conformer à ses passions, à ses désirs ou à ses idoles. Eh bien, Seigneur, nous voulons toujours garder dans nos cœurs tes promesses, ta parole. Tu es notre Dieu. Tu ne partages pas ta gloire avec un autre. Nous voulons te laisser à la première place dans nos cœurs. Et merci d'encourager chacun, ceux qui passent par l'épreuve, par la souffrance, par la maladie. Seigneur, tu te révèles aussi comme ce quatrième personnage, comme l'ange de l'Éternel, celui qui vient au cœur de l'épreuve pour nous consoler, pour accorder la paix, pour nous donner aussi la force de tenir bon dans l'épreuve. Merci de bénir chaque frère et sœur ce soir, de nous remplir de ta présence et de nous accorder encore ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.